Isabelle Azéma, vous me rejoignez. Je sais que malheureusement, vous voulez monter. Ouais. Vous voulez que je vous aide, mais allez-y. Hop là, on va s'installer. Merci. Alors, on va s'installer justement. Isabelle Azéma, qui aujourd'hui anime le réseau bénévole de la Fondation Alzheimer, a elle-même été confrontée très jeune. Elle avait, je crois, 48 ans. Hein. Vous allez me confirmer lorsque votre conjoint à l'époque a été diagnostiqué. Il n'était pas très vieux lui non plus. Et vous allez vivre 14 ans, l'accompagner pendant 14 ans et raconter, oui, effectivement, peut-être aussi.
Alors,
ça.
Ce qui est très intéressant, c'est une belle transition parce que moi, on va remettre ça dans le contexte, j'avais 48 ans quand j'ai commencé à comprendre que mon mari était atteint d'une maladie dégénérative. Il en avait 58, donc c'était un jeune patient et j'étais en vie active, très active. Et dans les années 2000, vous comprenez qu'il n'y avait absolument pas tout ce qu'on vient d'énoncer à l'époque. Donc c'était pour moi, quand j'ai compris que mon mari était atteint, en tout cas qu'il avait quelque chose, parce que ça a mis beaucoup de temps à l'époque, les médecins généralistes vous recevaient en disant que je pense que vous inventez beaucoup de choses.
C'était il y a 20 ans à peu
c'était,
près
c'était ben, 23 ans. Puisqu'il est décédé en 2013 et que ça a duré à peu près 12 ans. Alors, je vais tout de suite vous dire, je ne vais pas tomber dans le pathos, je suis une femme extrêmement liée. On a eu des moments extraordinaires avec mon mari, même malade. J'ai des choses très drôles à vous raconter. Donc mon histoire n'est pas triste. J'ai eu la chance, je crois, d'être entourée par des gens extraordinaires. J'ai accepté les aides parce que je me suis très vite rendu compte que je n'y arriverais pas. Je n'étais pas une superwoman. Et que, bien sûr, un tsunami, quand on vous annonce que votre mari a une démence frontotemporale, ensuite on vous dit que c'est une dégénérescence cortico-basale, après c'est la maladie de cœur de Lévy. Enfin bon, bref, de toute façon, on ne la soigne pas. Donc le truc, c'est la même chose. Ce que je veux dire, c'est que en tant qu'ancienne aidante, le conseil que je donne, c'est d'abord, il faut être très humble. On se dit qu'on ne va pas y arriver toute seule ou tout seul. Il faut prendre des conseils qu'on vous prodigue. Vous les adaptez à votre profil. Hein. Moi, j'étais extrêmement active et au début, je me suis dit non, j'en parle pas. Et puis finalement, j'en ai parlé à tout le monde. On m'a dit, écoutez, vous allez perdre tous vos amis. Eh bien, pas du tout. On a eu tous nos amis autour de nous, toute notre famille. Mon mari a fédéré. C'était quelqu'un d'introverti. Les filtres, vous savez, ils s'en vont hein, quand la maladie est là. Les inhibitions. Et il était devenu sensible, émotif. Il parlait de notre amour parce qu'on s'aimait énormément et que ça rejaillissait sur cette maladie. Donc, je dois dire que pour moi, c'est une maladie qui m'a rendue plus belle, qui m'a fait grandir. Maintenant, je suis auprès de la Fondation Recherche Alzheimer avec beaucoup de joie et j'ai monté. Voilà, je parle beaucoup.
Non, pas du tout. C'est passionnant, c'est touchant ce que vous dites. Est-ce qu'il y a des moments où vous le détestiez ? Est-ce
non,
que vous le rejetiez ?
Jamais, non, je ne l'ai jamais détesté. J'ai trouvé qu'il exagérait parfois. je vais vous faire rire, c'était quelqu'un qui avait un sens du budget extrêmement aigu. Et quand il est arrivé.
Qui était radin, quoi.
Non. Pas, enfin bon, il savait un sou, c'était un sou, en tout cas, ça c'est clair. Et un jour, il est dans cette maison qui coûtait fort cher chaque mois. Elena Santé, pour ne pas la nommer. Et il me dit : tu as vu ici, tout est gratuit. Alors je dis : mon chéri, mais profites-en, parce que là vraiment c'est gratuit, il faut que tu en profites. Et donc il y avait beaucoup de choses très drôles. J'ai assisté à des sets où ils avaient décidé un jour de prendre le taxi, alors il fallait trouver le taxi, alors on rentrait dans leur jeu, bien sûr.
Oui.
Et puis ensuite, un jour, il y a un pensionnaire qui me regarde, qui me dit : oh, mais qu'est-ce que tu as de beaux yeux, toi ? mais tu as dû en charmer plus d'un. Mais oui, mais on rentrait dans ce jeu qui était extraordinaire, c'était la comédie humaine. Et c'était drôle. Et moi, je garde très, très bon souvenir de cette maladie, même si ça a été un cauchemar.
Mais c'est ça, tout le paradoxe. Oui. Même si ça a été un cauchemar.
À
quel moment l'aidante que vous étiez s'est dit : j'ai besoin d'aide ?
Je vais vous dire tout de suite. J'ai rencontré le docteur de la Doucette, ce qui fait que le lien entre moi et la fondation. Et quand j'ai rencontré le docteur de la Doucette,
fondateur,
pour le placer, parce qu'on m'avait dit que je n'y arrivais plus, et des amis m'ont dit : tu vas tomber malade, Isabelle. Et là, le docteur de la Doucette m'a dit : madame, dans l'état actuel des choses, vous allez mourir avant votre mari. Donc j'avais 58 ans à l'époque. Mon mari allait mourir, ça c'était une évidence. Il est mort 2 ans après. Et je me suis dit : j'ai 2 filles, j'ai des petits-enfants. je ne peux absolument pas mourir avant mon mari. C'est tout simplement pas possible. Donc j'ai décidé de le mettre.
Et vous avez été délestée de cette culpabilité, oui. Honnêtement.
Alors, je crois que j'oublierai jamais le moment où je l'ai mis. C'était le 1er août 2011. Je crois que c'était la pire journée de ma vie, honnêtement. Mais oui, j'étais une bonne aidante. J'étais devenue une meilleure aidante, en tout cas, parce que je m'étais délestée de la charge administrative. C'était ma résidence secondaire. Voilà. Donc c'était très chouette. J'allais dans ma résidence secondaire. Je m'étais fait plein de copains, des résidents. Et voilà. Après, il paraît que j'aime bien le contact.
Mais ça se ressent, mais... Oui, oui. Et au moment où il ne vous reconnaît plus, ou au moment
il
où...
Il m'a toujours reconnu.
Il vous a c'est toujours ça, reconnu. Oui, alors c'est peut-être plus...
Il avait, je crois qu'on m'a dit, le professeur Dubois m'a dit que c'était une dégénérescence...
Un corps de Lévis.
Oui, un corps de Lévis. Il avait des symptômes parkinsoniens. Mais il a eu une fin terrible. Terrible. Mais il me reconnaissait. Il me faisait ce sourire. Il avait un sourire magnifique. Et quand il ne pouvait plus parler, il ne pouvait plus dire mon nom. Mais je savais, alors ça prenait du temps, 2, 3, 5 minutes. Mais au bout de 5 minutes, il faisait ce sourire extraordinaire. Et là, je savais qu'il m'avait reconnu. Et là, c'était le plus beau cadeau qu'on pouvait faire. Un sourire, vous imaginez.
Bien sûr.
Donc, on en était resté.
Et vous avez continué de travailler jusqu'au bout?
J'ai continué à travailler. J'ai pris ma retraite en 2019, vous voyez, donc...
Récemment.
Récemment. Et puis, on va peut-être parler de mon réseau de bénévoles que
vous animez
depuis 2017. Donc l'histoire avec la fondation, ça a vraiment démarré avec
on vous envoie des gros bisous de là-bas, je pense que c'est une de vos bénévoles.
Voilà, c'est une de bénévoles là-bas. Donc on m'a proposé de créer un réseau de bénévoles. Donc j'en profite ici puisque il y a probablement beaucoup de bénévoles qui pourraient nous rejoindre. C'est une équipe fort sympathique. On collecte des fonds, vous l'avez compris. Nous travaillons pour la recherche. Et on est maintenant 105 bénévoles.
Ah oui,
quand même. Plus de 300, 400 bénévoles lors des quêtes. On organise une quête nationale. Donc on a besoin de beaucoup d'aide. Donc venez nous rejoindre. Je crois qu'on va passer un petit film. Voilà.
Pour
qui va. Oui.
Peut-être que des personnes veulent vous dire quelque chose ou dire quelque chose, bien sûr. On ne va pas votre témoignage. Non, bien sûr. Est-ce que, en tout cas, bon, vous êtes. Chaque cas est particulier. On ne va pas faire école. On va pas. Voilà, chaque cas est très individuel. Il y a des histoires. C'était ce qui s'est produit dans votre relation. C'est pas duplicable, mais vous l'avez vécu comme vous étiez et comme il était. C'est ça.
Oui.
Et un conseil que vous donneriez, si vous pouviez donner un conseil un petit peu
universel. Je pense que pour les aidants, il faut prendre du temps pour soi, ça c'est sûr. Il faut se déculpabiliser parce que si vous prenez du temps pour vous, vous êtes un meilleur aidant. Et l'aidant, il a besoin d'être en forme. Et quand on parle d'un combat de 10, 12, 15, 20 ans, vous imaginez, c'est pas un an. Donc là, vraiment, il faut y mettre la gomme, là. Il faut pas hésiter. Et mon plus beau conseil que je puisse donner à un aidant, écoutez-vous, prenez du temps pour vous, il n'y a pas de culpabilité, vous n'y êtes pour rien, ce qui vous arrive, ce n'est pas de votre faute. Donc il faut vous entourer professionnel, attention, pas d'amis, les amis ne sont pas là pour écouter vos douleurs, ce sont des professionnels qui vont vous aider. Un contact avec un psychologue, moi j'ai été suivie pendant 10 ans, pendant la maladie, après la maladie de mon mari, parce que j'en avais besoin. Et ce n'est pas une honte, on a besoin de professionnels qui vous écoutent, vous déversez votre fardeau, vous pleurez. Moi, je n'ai jamais pleuré autant, et je ne pensais pas que c'était possible. Ça fait du bien de pleurer, c'est fatigant, mais ça fait du bien. Après, tout le monde ne peut pas pleurer, j'en suis consciente. Voilà, chacun... Et alors, on a des ressources en soi qu'on
qu'on découvre à l'occasion.
Voilà. On vous demande, mais comment vous faites? Ben, on ne fait pas, on fait, c'est normal.
Il n'y a pas de héros, il y a des gens qui...
Voilà. Mais voilà. Donc, c'est tous les conseils que je peux donner.
Merci infiniment. On va regarder un petit film et on va vous applaudir d'abord pour ce très, très beau témoignage. Vous êtes venu de Paris en dépit de ces soucis pour rencontrer. Mille merci.